Imaginez que vous venez d'acquérir un grand domaine terrien avec des champs et des bois dans un magnifique coin vallonné de France. Vous êtes debout au sommet d'une de vos collines et ça y est, c'est décidé, vous vous lancez dans la permaculture. Une question se pose alors, quelle est la surface de vos terres cultivables ? La mesure, en grec, se dit « metron », tandis que la terre ou le terrain se dit « gé ». Alors, en voulant mesurer vos terres, vous allez devenir un ou une « gémétron », c'est-à-dire un ou une « géomètre ». C'est comme ça qu'est née la branche des mathématiques que nous appelons la géométrie et dont l'objectif est l'étude des figures que l'on peut dessiner sur une feuille ou dans l'espace. Toutes les figures. Et cette discipline a donné des résultats spectaculaires. Voici un exemple dont vous vous souvenez peut-être de vos années d'école. Imaginez que vous dessiniez un triangle sur une feuille de papier. N'importe quel triangle, avec trois côtés, trois sommets et trois angles. Eh bien, si vous ajoutez la valeur des trois angles, vous obtiendrez toujours 180 degrés, quel que soit le triangle. On pourrait n'en avoir rien à faire de ce résultat, mais il faut admettre qu'il est étrange. Et on comprend aisément que pour certains, il méritait d'être approfondi. Mais comment ? Comment ne serait-ce que prouver ces 180 degrés ? C'est là qu'est intervenu un mathématicien dont le nom a traversé les siècles et même les millénaires, Euclide. Dans son livre « Les éléments », écrit il y a environ 2300 ans, Euclide a énoncé ce qui lui semblait être cinq propositions évidentes, cinq axiomes, à partir desquels tout le reste de la géométrie pouvait être déduit. Et parmi ces cinq axiomes, il y en a un qui a une place particulière. C'est celui qu'on appelle le postulat d'Euclide. Il dit la chose suivante, concentrez-vous. Si vous prenez une droite et un point qui n'est pas sur cette droite, il existe une et une seule autre droite parallèle à la première qui passe par ce point. Alors pendant des siècles, les mathématiciennes et mathématiciens ont essayé de prouver que ce cinquième axiome n'était pas nécessaire, qu'il était forcément une conséquence d'autres axiomes plus fondamentaux. Mais ils ne risquaient pas de réussir, car si on le supprime, comme cela a été tenté au début du 19e siècle, eh bien on obtient de nouvelles géométries, des géométries non euclidiennes. Alors là aussi, on pourrait penser que ces mondes à la géométrie bizarre ne sont que des curiosités sans grande conséquence. Mais figurez-vous que ce sont ces mondes-là qui sous-tendent la structure de la plupart des réseaux sociaux que nous utilisons tous les jours et bien d'autres choses encore. Alors comme nous sommes le 14 mars, c'est-à-dire le 3e mois et le 14e jour de l'année, nous sommes le 3-14, le jour de Pi, nous allons en profiter pour parler géométrie avec mes trois invités que voici.
Bonjour, je suis Nalini Anantharaman, mathématicienne, professeure au Collège de France et membre de l'Institut de recherche mathématique avancée à Strasbourg. Un de mes grands thèmes de recherche, c'est d'étudier la manière dont les ondes se propagent en fonction de la géométrie et de l'environnement. Pour donner un exemple issu de la physique, les ondes sonores, par exemple ma voix, ne vont pas se propager de la même manière dans une pièce cubique ou dans une pièce ronde. Moi, j'ai surtout étudié ça dans le contexte des géométries hyperboliques, qui sont un des exemples les plus connus des géométries non euclidiennes. Et depuis quelques années, j'étudie aussi ce qu'on appelle les géométries aléatoires. Moi, ce que j'adore dans la recherche, c'est d'avoir l'impression d'explorer des chemins que personne n'avait parcourus auparavant.
Moi, je m'appelle Étienne Gis. Je suis aussi géomètre, évidemment, puisque c'est le thème de l'émission. J'aime la géométrie depuis toujours, mais j'aime dire que la géométrie va bien au-delà de ce qu'en général on pense, les triangles, les cercles et les carrés. Pour moi, la géométrie, c'est tout ce que je vois autour de moi, même des choses auxquelles on ne pense pas directement. J'ai par exemple eu, il n'y a pas très longtemps, l'occasion de m'intéresser à regarder comment est fait un flocon de neige, quelle est la géométrie sous-jacente. Ou bien j'ai écrit un petit bouquin sur la géométrie des ballons de football. Et puis plus récemment, qui est un peu plus caché, la géométrie des... la forme des lettres de l'alphabet, comment elles sont dessinées, est-ce qu'il y a des cercles, est-ce qu'il y a des droites, comment ça a évolué au cours des siècles. Je trouve que c'est un sujet fascinant qui mélange histoire, art, politique. Hein, vous savez peut-être que Donald Trump a demandé de changer les polices de caractère de l'administration américaine. Tout ça est tout à fait intéressant parce que ça met géométrie et société dans le même paquet.
Bonjour, je m'appelle Nathalie, je suis designeruse, donc mon métier consiste à créer des objets, des espaces, et quelquefois s'abstenir d'en créer. Et en fait, ce qui me porte, en fait, moi, c'est la vie, c'est pas vraiment les objets, ni de faire des belles choses, mais c'est plutôt d'imaginer des scénarios de vie, et c'est comme ça que je définis mon travail. Je Je vais donner un exemple. Le premier objet que j'ai fait, ça s'appelle Quand j'y monte à Paris. C'est un lit d'appoint qui est une colonne. Et je voulais redonner de l'hospitalité à la maison quand on n'a pas de chambre d'amis. Donc c'est une colonne qui fait 35 sur 35 sur 2 mètres de haut. On la bascule, on l'ouvre quand j'y m'arrive. Et on a un lit d'appoint avec une petite lampe qui va créer un espace symbolique. Donc vraiment cette idée que l'espace, en fait, elle appartient à l'objet. Elle est déjà dans l'objet et elle est surtout dans les scénarios de vie et d'usage.
Nathalie Crasset, Étienne Gis, Nalini Anantara, merci à vous d'être là. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes en direct de la Maison de la Radio avec le public du studio 181. Et en ce beau jour, nous allons parler de pi, nous allons parler géométrie.
France Inter. Big Bang. Christophe Galfard.
J'ai envie de commencer avec vous, Nathalie Crasset, en tant que designeuse, vous avez quand même une notion de l'espace, je pense, qui a un sens qui vous est propre de l'espace et de la géométrie même. Au-delà de l'aspect pratique peut-être des choses, est-ce que vous avez même peut-être des théories là-dessus ?
En fait, je lis beaucoup de philosophie et d'anthropologie, c'est ça qui est la base un peu de mes questionnements, enfin qui m'aide à répondre aux questionnements. Et la production de l'espace d'Henri Lefebvre m'aide beaucoup au quotidien, puisqu'en fait il a défini que la production de l'espace pouvait être une espèce de tension entre ce qu'on appelle l'espace conçu, dont fait partie, je pense, la géométrie, l'espace vécu avec ce qui est la culture, avec nos représentations communes, et puis l'espace perçu, qui sont les pratiques quotidiennes. Et c'est vrai que moi, je suis beaucoup en train de travailler sur les espaces perçus et les espaces vécus.
C'est-à-dire que vous voyez une différence quelque part entre la façon dont on ressent les choses, dont les choses sont et l'impact que ça peut avoir via leur utilisation ?
Oui, il y a en fait dans l'espace conçu, on a un certain nombre de codes, on a un certain nombre de contraintes et j'essaie de plutôt mettre la vie au premier plan, donc plutôt ces pratiques quotidiennes et même quelquefois des pratiques détournées, des pratiques voilà, qui sont aussi changeantes. L'idée, c'est de pas figer, mais de pouvoir vraiment s'approprier l'espace et le changer et donner des espaces qui sont plutôt des potentiels.
De créer dans des espaces quelque chose de modulable, quelque chose qui peut évoluer dans le temps, en gros. C'est ça ?
C'est ça qui me porte, ouais.
J'avais envie de vous poser la question, Nalini Anantaram. Lorsqu'on essaye de concevoir un espace, peut-être à la manière dont Nathalie Crasset vient de le suggérer, ou peut-être d'une manière plus mathématique, est-ce que dans l'histoire, peut-être, des idées et des conceptions, on a toujours eu une sorte d'intuition de comment les choses devraient être? Et est-ce que cette intuition s'est transformée à un moment donné en quelque chose de plus précis, de plus mathématique, avec des personnes comme Descartes ou d'autres?
Bon, en ce moment, je suis en pleine lecture de Descartes, hein, comme on en a parlé. Et ce qui m'a intéressée dans la lecture de Descartes, donc dans un texte qui s'appelle La géométrie, qui a été écrit il y a un peu plus de 400 ans, c'est d'essayer de comprendre, dans la pratique de la géométrie, il y a une tension entre une pratique calculatoire de la géométrie, par le calcul algébrique, symbolique, qui est peut-être justement ce qui correspond à un espace conçu, on peut dire, conçu a priori, et une pratique finalement plus ancienne, via les figures et via la notion de symétrie, qui... J'ai eu l'impression que, en me replongeant effectivement dans la lecture de Descartes, peut-être j'allais comprendre d'où venait cette tension qui existe toujours.
Une tension qui serait entre quelque chose de très visuel et très...
Quelque chose de visuel qui passe par le langage, par des phrases. La géométrie des anciens Grecs qui passait beaucoup par les raisonnements, par les phrases et par les dessins. Et quelque chose de plus symbolique. Et qui passe par des idées a priori sur ce qu'est la géométrie et comment être efficace en géométrie, qu'est-ce que Descartes a essayé de faire.
Il a voulu sortir du côté un petit peu magique, peut-être, que pouvait être l'intuition des formes, pour lui donner quelque chose de plus ancré. C'est ce qu'on appellerait le cartésianisme, d'une certaine manière.
Disons qu'il a voulu... Il a reproché au texte de géométrie grecque de ne pas expliquer comment on trouvait les idées. Donc effectivement, que des idées, des fois des solutions aux problèmes avaient l'air de sortir nulle part de manière magique. Et lui, il a voulu au contraire montrer comment on peut trouver les solutions, ce qui s'appelle l'analyse. À l'époque, l'analyse, c'est la partie recherche où on ne connaît pas la solution, mais on la cherche. Et par sa méthode algébrique, il a voulu montrer comment on peut trouver des réponses aux questions.
Étienne Gis, est-ce que dans la pratique de la géométrie aujourd'hui, le rôle des dessins existe encore ou est-ce que Descartes, il y a 400 ans, il y a mis un terme?
Heureusement que non. Moi, ce que je constate, c'est ce que dit Nalini, c'est que, en fait, à peu près à l'époque de Descartes, le monde de la géométrie s'est un peu scindé, pour simplifier et pour caricaturer, en deux mondes assez différents. Il y a ceux, dans mon style, qui passent leur temps à faire des petits dessins, à découper du papier, à mettre du scotch, etc. Et puis ceux qui, les cartésiens, on peut dire, qui ont cette habitude de travailler en quelque sorte en formule sans trop chercher l'intuition derrière. Donc, pour simplifier, il y a deux façons de faire de la géométrie, qu'on appelle souvent synthétique ou analytique. Moi, je suis tout à fait j'aime bien découper du papier. Voilà.
Donc, vous êtes plutôt synthétique, vous
dites ça ? Exactement.
Et Nalini, vous seriez plutôt analytique, vous ?
Plutôt. Enfin, on est toujours obligé de faire des dessins à un moment, mais. Je suis assez analytique quand même.
La géométrie qu'Euclide nous a commencé à nous décrire il y a donc plus de 2300 ans, c'est une géométrie qui correspond à un petit peu l'intuition qu'on a de l'espace qui est autour de nous, l'espace qui peut être utilisé dans des immeubles, dans des pièces, pour faire du design ou d'autres choses. Mais ça correspond un petit peu à notre intuition. Et pour vraiment le comprendre et pouvoir faire de l'analyse, donc, et ne pas être juste dans un monde magique d'idées, peut-être, pour le dire de manière caricaturale hein, aussi. Est-ce que, à partir de ces cinq axiomes qu'il a posés, et notamment le dernier, cet axiome des parallèles, c'est-à-dire qu'il existe toujours une parallèle et une seule, qui a une droite donnée passant par un point. L'histoire de cet axiome est assez amusante parce que, comme je le disais dans l'introduction, beaucoup de mathématiciennes et mathématiciens ont essayé de s'en défaire pour montrer que bah, finalement toutes les géométries sont comme ça. Mais ce n'est pas le cas. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on essaye de supprimer cet axiome-là, Nalini Anantaram?
C'est quelque chose qui a été réalisé au XIXe siècle. Qu'il existait des géométries qui satisfaisaient les quatre premiers axiomes ou postulats, mais pas le dernier. Et on se retrouve, les deux exemples, vraiment, c'est la géométrie hyperbolique d'une part, et peut-être celle qu'on connaît finalement mieux, c'est la géométrie sphérique. La géométrie dont on fait l'expérience quand on se déplace sur une sphère, comme la surface de notre Terre. Alors, il faut dire ce qu'on veut dire par se déplacer en ligne droite, en fait. La question, quand on est sur un espace qui... Enfin, du coup, on est dans des espaces qui sont courbés. Il y a une notion de courbure hein, qui a été... Alors, en fait, la notion de courbure a été inventée par Gauss et elle est très analytique au départ.
Alors Gauss, c'est un mathématicien qui était au début du 19e siècle.
Oui. Et en fait, quand on sort de la géométrie euclidienne, on se retrouve tout de suite dans des espaces courbés. Il faut dire déjà ce que ça veut dire de se déplacer en ligne droite, bien sûr. Donc ça veut dire suivre le plus court chemin entre deux points. Et selon qu'on est en géométrie sphérique, euclidienne ou hyperbolique, on voit pas la même chose quand on se déplace en ligne droite.
Alors peut-être on peut préciser pour nos camarades humains qui sont sur notre planète, on dit que la géométrie est sphérique, pourtant on fait de la géométrie euclidienne à l'école. Alors ce que ça signifie, c'est que certes notre Terre est ronde, hein, pour ceux qui en douteraient encore un peu, mais quand on est à un endroit précis et qu'on regarde des distances qui sont très courtes, eh ben on le voit pas trop qu'elle est ronde parce que les lignes droites sont assez droites. Les rails de chemin de fer semblent parallèles. Mais et ça semble tout bien fonctionner. Mais lorsqu'on prend à des grandes échelles, si on fait une ligne droite, ce que vous racontiez Nalini Anantaram à l'instant, si on fait une ligne droite sur Terre, et ben on verra que au final ça forme un cercle et non plus une ligne droite comme on pourrait l'imaginer dans un espace euclidien. Alors ce qui est amusant aussi, c'est que ce coup des parallèles dans un espace sphérique, par exemple à la centre de la Terre, Étienne Gis, si je veux prendre un parallèle à une parallèle à une ligne droite, bah, il y en a plein ou il n'y en a pas beaucoup?
Commencez par un petit commentaire historique.
Allons-y.
On parlait tout à l'heure de Euclide. Euclide vivait bien sûr il y a 2300 ans. Et à l'époque, comment les gens percevaient l'espace? Comment ils percevaient le monde? À l'époque, le monde était fini. il y avait la Terre, il y avait la Lune, et au-delà de la Lune, il y avait une sphère dont on ne connaissait pas bien le rayon, et qui portait toutes les étoiles, qu'on appelait la sphère des fixes. Et au-delà de cette sphère, il n'y avait rien. Rien du tout. Donc je dis que notre ami Euclide, qui n'était pas bête, il n'avait pas dans sa tête le concept même de droite. Puisqu'une droite, on l'a tous appris à l'école, c'est quelque chose qu'on continue toujours à l'infini. Et là, c'est pas possible, puisque si on continue à l'infini, on va sortir de l'espace. Donc la remarque que je voudrais faire, et Euclide en avait bien sûr parfaitement conscience, c'est que déjà dans la géométrie d'Euclide, il y a une vision de l'espace qui dépasse l'espace fini des Grecs anciens. Donc déjà à l'époque, le mot parallèle n'avait pas de sens, puisque aucune droite, deux droites ne pouvaient pas être parallèles, parce qu'on butait sur la sphère des fixes.
On pourrait dire d'une certaine manière qu'avec Euclide, et vu qu'il avait conscience de tout ça, le monde mathématique qui était en train d'être fabriqué dans les esprits était déjà plus vaste.
Exactement.
Que le monde réel qui nous entourait.
Et il y a une phrase que Nalini vient de prononcer que j'ai trouvée intéressante, c'est qu'elle a employé le mot géométrie au pluriel. Il y a cette petite application qu'on peut, j'ai oublié comment elle s'appelle, Ngram, je crois, sur Google, qui permet de prendre un mot, n'importe lequel, et Google nous donne le nombre d'occurrences de ce mot dans les Google Books en fonction de la date. Et c'est très intéressant de prendre le mot géométrie au singulier et le mot géométrie au pluriel. On voit que jusque, disons, 1850-1880, géométrie n'était jamais au pluriel. Et tout à coup, fouf, il explose, et maintenant le mot géométrie est au pluriel. Et d'ailleurs, c'est pas que Google qui a remarqué ça. Moi, j'ai remarqué que dans les anciennes versions de Word, quand j'avais le malheur d'écrire le mot géométrie au pluriel,
il était corrigé.
Il le soulignait en rouge. Oui. Donc il y a ce passage conceptuel où, en effet, la géométrie a transcendé l'espace concret dans lequel nous pensons vivre.
Alors c'est amusant parce que dans le design, peut-être, en tout cas votre approche, Magali, je vais réussir à dire votre nom parce que j'ai entre Nalini et Matali, mais voilà, Matali Crasset, dans votre approche du design, quelque part c'est un peu l'inverse de ce que faisait Euclide, à savoir qu'il crée un monde abstrait à partir du monde concret. Et vous, vous faites un peu l'inverse. Vous utilisez des concepts peut-être abstraits de géométrie pour fabriquer des choses extraordinairement concrètes. Est-ce qu'on pourrait le dire comme ça ou pas du tout?
Non, j'ai jamais trop pensé de ce point de vue-là, mais je réagis sur cette idée d'aller un point à un autre et ça m'éclaire sur une exposition que je suis en train de faire actuellement en Suisse que j'ai appelée les égards obliques, où je voulais justement ne pas aller d'un point à un autre, mais se dire qu'aujourd'hui, dans notre monde, c'est intéressant aussi de regarder sur le côté, d'arrêter de foncer, et de prendre le temps de regarder ce qui est là autour de nous aussi, mais et directement là, sur le côté, parce que dans la marge, il y a énormément de ressources, il y a vraiment beaucoup à apprendre. Donc c'est un peu plutôt ce genre de choses qui me fait avancer, de partir en fait de défauts d'alignement et après d'essayer de réfléchir à des espaces ou des objets.
Oui.
Je voulais réagir à ce qu'Étienne a dit sur la difficulté de concilier la géométrie euclidienne avec la vision officielle du monde, parce que c'est une difficulté auquel Descartes et les géomètres à l'époque de Descartes se heurtaient aussi, hein, donc le début du XVIIe siècle, parce qu'il y avait une vision autorisé du monde, de ce qui était vraiment le monde, qui était la vision qui venait de la religion catholique. Et la géométrie plane euclidienne est complètement incompatible avec ça. Et donc, on avait le droit de faire de la géométrie à condition de dire que c'était quelque chose d'abstrait, la géométrie euclidienne, mais il s'agissait surtout pas de dire que le monde était vraiment comme ça. Et je crois que Descartes appréciait cette liberté que donne l'abstraction, de pouvoir faire des choses en disant que ça ne veut pas forcément dire que le monde est réellement comme ça, mais on a quand même le droit de faire des raisonnements en géométrie euclidienne pour voir jusqu'où on peut aller.
Mais dans cette idée d'abstraction qui nous permet de nous soustraire au réel et peut-être au...
Et nous libérer aussi
oui. L'esprit, l'idée même que certains... On a dit qu'il y avait 5 axiomes dans Euclide, et je n'ai cité que le 5e, on peut dire rapidement quels sont les 4 autres. Le premier, c'est que lorsqu'on prend 2 points, on peut tracer un trait entre les 2, c'est ce que vous disiez à l'instant, Mathalie Crasset. Le second, c'est que on peut... ça s'appelle un segment, entre 2 points. Le second, c'est qu'on peut tirer une droite, cette fameuse droite qui n'existait pas à l'époque dans la réalité, à partir de ce segment, quelque chose qui part à l'infini des deux côtés. Ensuite, quelle que soit sa taille, on peut tracer un cercle. En gros, il y a quelque chose comme ça dans les axiomes d'Euclide. Et le quatrième est que les angles droits, c'est toujours les mêmes partout. Si on a quelque chose qui est perpendiculaire à quelque chose, ça voudra dire la même chose absolument partout. Et le cinquième, qui est donc ces parallèles. Et là, il y a quelque chose que vous venez de dire, Nalini et Anantaram, que je trouve fascinant par rapport au monde des idées, qui est que rien qu'avec ces axiomes, en fait, ils donnent une base pour pouvoir penser. Et donc, si on enlève cette idée qu'il n'y a qu'une seule parallèle qui passe par un point n'importe où, on trouve d'autres mondes, d'autres géométries. Et j'aimerais bien qu'on parte sur celle que vous aimez bien, vous, qui s'appelle la géométrie... J'imagine que vous les aimez toutes, mais en particulier celle qu'on appelle la géométrie hyperbolique. Est-ce que vous pourriez nous décrire, du coup, peut-être en quelques mots, ce que ça signifie, la géométrie hyperbolique?
Oui, alors, une manière de le raconter, c'est peut-être par une petite mise en scène. Donc, imaginons qu'on soit deux amis en train de discuter, et puis à un moment, on se sépare, et chacun part dans une direction différente. Et puis, on marche un certain temps, et au bout d'un moment, je me rends compte que je voulais, par exemple... donner un livre à cet ami, j'ai complètement oublié, donc je l'appelle et je lui dis, faudrait qu'on se retrouve parce que j'ai oublié de te donner le livre que je voulais te donner. Donc si on est en géométrie euclidienne, dans tous les cas, on va essayer de trouver la manière, on va essayer de trouver un point qui est à peu près à égale distance. On se retrouve tous les deux à un endroit différent et il faut qu'on trouve le meilleur endroit à mi-chemin pour se rencontrer. Si on est en géométrie usuelle, euclidienne, ce point-là, il est en général assez éloigné du point dont on était parti. Donc on va regarder une carte et on va tirer un segment, justement, et puis essayer de se retrouver au milieu. En géométrie hyperbolique, souvent, en fait, le plus simple, c'est de dire on revient à notre point de rencontre initial et c'est ça la meilleure solution. Et ça peut paraître bizarre de dire ça comme ça, mais en fait, il y a des situations concrètes où c'est facile de visualiser ça. Par exemple, typiquement, si on est dans un col en montagne, on est dans une situation de géométrie hyperbolique et on est sur un col. Il y a la définition d'un col, c'est qu'il y a un chemin qui monte vers le sommet et il y a un autre chemin qui descend vers la vallée. Donc imaginons qu'un des deux amis soit monté et l'autre soit descendu et qu'il se rende compte qu'il faut qu'il se retrouve. Je pense que ça paraît clair à tout le monde qu'il faut retourner au col pour se revoir. Ça viendrait à l'esprit de personne d'essayer de couper au milieu et de prendre un chemin un petit peu bizarre qui passe. Et une autre situation où on rencontre ce genre de géométrie, c'est dans les transports en commun. Si on a chacun pris une ligne de RER différente, dans des directions différentes, souvent il n'y a pas une troisième ligne qui permet de se retrouver. Il faut retourner à l'arrêt de RER initial.
Eh bien, on va venir sur les applications aussi de ces géométries hyperboliques. Et comme nous sommes tout de même le jour de Pi, je vous propose de voir ce que 3 a de magique en écoutant 3 is a magic number de Bob Dorough.
Three is a magic number. Yes, it is. It's a magic number. Somewhere in the ancient mystic trinity, you get 3 as a magic number. The past and the present and the future, faith and hope and charity, the heart and the brain and the body give you 3 as a magic number. It takes 3 legs to make a tripod or to make a table stand. It takes 3 wheels to make a vehicle called a tricycle. Every triangle has 3 corners, every triangle has 3 sides, no more, no less. You don't have to guess. When it's 3, you can see it's a magic number. A
man and a woman had a little baby. Yes, they did. They had three in the family. That's a magic number.
3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30.
3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30.
Now the multiples of 3 come up 3 times in each set of 10. In the first 10, you get 3, 6, 9. And in the teens, 10, it's 12, 15, and 18. And in the 20s, you get a 21, 24, 27. And it comes out even on 30, yeah.
Now multiply backwards from 3 times 10.
3 times 10 is 30. 3 times 9 is 27. 3 times 8 is
24.
3 times 7 is
21.
3 times 6 is 18. 3 times 5 is 15. 3 times 4 is 12, and 3 times 3 is 9, 3 times 2 is 6, and 3 times 1 is 3, of course.
Now dig the pattern once more. 3,
3, 6, 9,
12,
12, 15, 18,
21,
21, 24, 27, 30,
yeah.
30.
Now multiply from 10 backwards.
3 times 10 is 30.
3
times 9 is 27.
3 times 8 is 24.
3 times 7 is
21.
3 times 6 is 18. 3 times 5 is 15. 3 times 4 is 12. And 3 times 3 is 9. And 3 times 2 is 6. And 3 times 1. What is it?
3.
Yeah,
that's a magic number. A man and a woman had a little baby. Yes, they did. They had 3 in the family. That's a magic number.
Nous sommes toujours en direct avec la designereuse Mathalie Crasset, le mathématicien Étienne Gis, la mathématicienne Nalini Anantaram, et nous parlons géométrie avec le public du studio 181 de la Maison de la Radio.
Big Bang, Christophe Galfard.
Taraman.
Ah, vous continuez à parler pendant la musique.
Non, c'est Anantaraman.
Anantaraman, je l'ai mal prononcé tout à l'heure. Ah, excusez-moi. Je m'excuse auprès des auditeurs. J'ai dit Ananta. J'ai mal prononcé votre nom. Nalini Anantaraman. Je voulais repartir avec vous, Mathalie Crasset. Vous me disiez là, pendant qu'on écoutait la musique, que c'est pas tant le trait qui vous intéresse peut-être dans la géométrie, mais la ligne.
Oui, je sais pas si ça fait partie du coup de la géométrie, mais pour moi, la ligne a plus de sens. Ça a plus d'intérêt, puisque je vais citer Deleuze qui nous parle de lignes de vie. Et donc nos vies se distribuent à travers différentes lignes, les lignes dures qui nous segmentent, les lignes souples traversées de cassures, de remises en cause qui nous transforment. Et nous sommes faits d'un paquet de lignes, en fait. Nous passons de l'une à l'autre et nous en générons parfois de nouvelles. Parmi ces lignes, il y a la ligne de fuite créatrice qui intensifie nos existences, justement. Et une ligne de fuite, c'est ce qui emporte et c'est ce qu'il y a de créateur chez quelqu'un. Donc j'essaie de travailler autour de ces lignes de fuite, justement.
Vous avez une vision finalement assez abstraite de ce qu'est la géométrie, mais pour l'appliquer au réel. Étienne Gis, je vais bien prononcer votre nom, à vous aussi. Nalini Anantaraman, dont nous parlait il y a quelques instants de cette idée que finalement les distances peut-être sont n'ont pas toujours la même signification dans tous les espaces et que retrouver son chemin ou se donner rendez-vous à mi-chemin ne signifie pas toujours la même chose. Vous vouliez peut-être rebondir là-dessus ?
Il y a un bon exemple qu'on cite, qu'on enseigne souvent dans les premières années d'université, c'est ce qu'on appelle la distance SNCF. Hein, on prend deux points dans un plan qu'on va appeler la France et la distance entre ces deux points ne se mesure pas en kilomètres mais en temps de parcours dans le train. Et comme on sait bien, dans notre pays, centralisé, tout passe par Paris. Autrement dit, pour aller de Lille jusqu'à Grenoble, il faut passer par Paris. Et pour aller de Lille jusqu'à, je sais pas, La Rochelle, il faut aussi passer par Paris. Ce qui fait que les deux segments, Lille-Grenoble et Lille-La Rochelle, ils ont un petit bout en commun. On ne voit pas ça dans la géométrie euclidienne qu'on apprend à l'école. Donc il faut repenser toute la géométrie. Et ce que disait Lani est tout à fait vrai. En fait, si nos deux amis se séparent, où est-ce qu'on a rendez-vous ? À Paris. Hein ? c'est notre pays, comme c'est...
Voilà, voilà. Cela dit, c'est joli, Paris. Voilà. Après, le reste est joli aussi. Mais...
le reste aussi. Donc voilà, donc, je pense que repenser la géométrie avec une autre perception des distances, et c'est quelque chose qui, je crois, apporte une nouvelle vision sur notre espace. Moi, je parle toujours aussi, il y a beaucoup d'exemples. Il y a cette définition, par exemple, quand on regarde l'ensemble des mathématiciens, on définit en général une distance entre ces deux mathématiciens, qu'on appelle la distance de Erdős, comme étant le nombre d'étapes entre collaborateurs. Je crois qu'entre Naline et moi, probablement, on n'a jamais écrit quoi que ce soit ensemble, mais peut-être qu'on a, je suis sûr, on a appris quelque chose. On a écrit, j'ai écrit quelque chose avec quelqu'un avec lequel tu as écrit. Donc notre distance est 2. Et quand on regarde un peu la géométrie de cet espace, cet ensemble de mathématiciens, on voit apparaître des structures, on voit des distances, on voit des nœuds qui sont plus importants que d'autres. Quand on regarde tout ça, on voit qu'il y a des mathématiciens qui sont connectés à beaucoup de monde, parce qu'ils ont beaucoup écrit avec beaucoup de gens. Donc ça donne une structure...
Des Parisiens, en gros.
Non, pas forcément.
Parce qu'il faut passer par eux pour attendre quelqu'un d'autre.
Non, il faut passer par Descartes et Gauss. Voilà. Donc je pense que c'est ça pour ça que le mot géométrie s'est mis au pluriel avec violence dès le début du XXe siècle. Parce que quand on dit géométrie aujourd'hui, on ne pense plus au cours de géométrie de quatrième qu'on a tous suivi.
C'est-à-dire qu'on est dans des géométries qui sont parfois non euclidiennes, où les distances, on peut prendre l'exemple d'un cercle ou d'un disque plutôt, où la distance entre le centre du disque et sa périphérie peut être infinie dans certaines distances qui sont fabriquées pour cela. Est-ce que il y a d'autres applications que le temps SNCF à ces géométries-là, par exemple,
si on veut étudier les réseaux sociaux. Comment, je pense que Naline est plus compétente que moi là-dessus, mais comment, par exemple, une fake news se développe dans un réseau social, parce que tout va dépendre de la manière dont un nœud est connecté à d'autres nœuds. Donc là, c'est pas de la géométrie euclidienne. Le disque de rayon R, c'est pas Pierre Carré, c'est beaucoup plus compliqué. Et en fait, il y a des points, il y a des gens qui transmettent les fake news beaucoup plus que d'autres. Donc, comprendre la géométrie de ceci, c'est fascinant, mais c'est la même chose que comprendre la géométrie des réseaux neuronaux dans notre tête, où il y a énormément d'exemples qui sont, à mon avis, fascinants. Et qui, moi, je dis toujours que, quand j'étais gamin, mon monde à moi, c'était un disque de rayon 2 km autour de ma maison. Aujourd'hui, le monde d'un adolescent, il est tout à fait différent, parce qu'il communique sur WhatsApp ou sur tout ce que vous voulez, avec des gens qui ne sont pas proches de lui géographiquement, mais qui sont proches de lui intellectuellement. Et donc cette façon de comprendre la géométrie des réseaux sociaux, c'est fascinant et fondamentalement important.
Je vous remercie d'avoir dit Pierre Carré, parce qu'il y a pi dedans et nous sommes quand même le jour de pi. Et peut-être une définition de pi, il y en a plein, mais je vais en donner une. Si vous tracez un cercle dans une géométrie dont on a l'habitude, disons, et que vous regardez le diamètre, c'est-à-dire le diamètre du cercle, et que vous divisez la distance que vous parcourez en marchant le long du cercle par son diamètre, eh ben vous obtenez pi à chaque fois. À chaque fois, dès l'instant où nous sommes dans une géométrie euclidienne. Mais dès qu'on sort de cette géométrie-là, Naline Anantharaman, ce n'est plus le cas, n'est-ce pas? On n'aurait pas trouvé pi aussi facilement si on n'était pas dans une géométrie euclidienne approximativement autour de nous.
Non, effectivement. Mais bon, d'abord, il faut dire que on a tendance à penser que pi... a toujours été une évidence, mais non, il y a longtemps, c'était pas évident qu'il y avait un nombre qui servait pour tous les cercles, et surtout que c'était le même nombre qui servait à la fois pour le périmètre et pour l'aire du cercle. C'est quelque chose que je crois Archimède a démontré.
Oui, c'est vrai.
Et le périmètre, c'est la distance qu'on parcourt quand on
la longueur de la circonférence du cercle, et l'air, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Et c'est le même nombre qui intervient dans les deux formules. Déjà, il ne s'est pas toujours appelé pi, hein. C'est
Euler.
C'est assez récent, il n'avait pas de nom, les gens disaient le nombre qui sert pour mesurer les cercles.
Je peux ajouter un petit commentaire à ce que dit Naline. Je voudrais parler de ma fille, j'ai le droit.
Bah, si vous voulez.
Ma fille était...
Elle s'appelle pi.
Non. Ma fille était professeure des écoles, et je lui ai proposé un petit exercice avec ses enfants, qui s'est passé dans la cour de récréation, où les enfants traçaient à la craie des cercles avec un bout de ficelle, des petits, des grands, des moyens, toutes tailles. Et ils avaient mission d'en mesurer le périmètre avec un bout de ficelle. Et elle m'a envoyé une photo d'une petite gamine qui est stupéfaite de voir que c'est en gros toujours trois fois le diamètre, quelle que soit la taille du cercle, petit ou grand. Et dans son regard, j'ai une super photo, dans son regard, on voit que la gamine a compris la géométrie euclidienne, si je peux me permettre. Voilà.
Et la valeur de pi a été un sujet de... Enfin, la valeur de pi, c'est-à-dire que a été un sujet de...
De recherche.
Voilà, au départ, les gens savaient que c'était assez proche de 22 divisé par 7. Si vous pouvez taper 22 divisé par 7 sur votre calculette, vous allez voir que ça ressemble un petit peu au nombre que maintenant on connaît, mais pendant très longtemps, ça n'a pas été clair de savoir si pi était une fraction... pouvait être écrit comme une fraction ou non. Enfin, voilà, c'est pas un nombre. Maintenant, on dit, on tape sur la touche pi, sur la calculette, et ça permet de tout faire. Mais ça a été vraiment un sujet d'interrogation pendant longtemps.
Est-ce qu'on peut dire, par exemple, que pi marque une frontière entre géométrie? Parce que si on a, par exemple, une circonférence divisée par un diamètre qui est inférieur à pi, eh ben, on est dans une géométrie sphérique. Oui. Et si c'est supérieur, on est dans une géométrie hyperbolique. Si c'est égal, on est dans une géométrie euclidienne.
Oui, c'est tout à fait ça.
Donc, on a une frontière avec ce nombre pi. Aujourd'hui, nous traversons la frontière de pi, 14 mars. Quelles autres applications vous voyez à cette idée de géométrie au pluriel? Est-ce qu'il y en aurait, par exemple, alors ma question est un petit peu biaisée, par rapport à la structure même de notre univers, est-ce qu'on connaît la géométrie réelle de notre univers? Est-ce que Étienne, Nalini, vous voulez répondre à ça?
C'est une question pour un géophysicien que je ne suis pas.
Hein. Alors, je peux essayer de répondre moi.
C'est précisément la différence entre les mathématiques et la physique. Hein. Le rôle du mathématicien n'est pas de répondre à des questions qui concernent l'univers au sens physique, mais le mathématicien peut proposer un certain nombre de modèles, d'explications possibles, à charge pour le physicien de faire des mesures et de voir lequel des modèles est le plus adapté à la réalité qu'il rencontre. Dans le cas de l'univers, effectivement, on dit en général que ça peut être à courbe positive, négative, etc. Donc les mathématiciens ont proposé, c'est ce que ça s'appelle la cosmologie, c'est pas à vous que je vais l'apprendre, la cosmologie propose un certain nombre de modèles et les astrophysiciens mesurent des choses et ils en concluent que ceci ou que cela. Je crois que la question n'est pas encore complètement résolue, mais les choses progressent.
Mais il y a quelque chose Pardon, Aline.
Ce qu'il faut dire, c'est que depuis la théorie de la relativité générale d'Einstein, il y a un lien vraiment intime entre la structure de l'univers et la géométrie. En particulier, on a un petit peu parlé de courbure depuis tout à l'heure. Einstein, son idée, ça a été de dire que notre univers, en fait, est courbé et qu'il y a une relation précise entre le champ de gravitation et la courbure de l'univers. En fait, voilà, il y a... Soit, je ne sais pas, peut-être vous le savez mieux que moi, mais Christophe, on peut dire que le champ de gravitation courbe l'univers, ou dans l'autre sens, on peut dire que la courbure de l'univers détermine le champ de gravitation. Donc voilà, on a ces équations d'Einstein que les mathématiciens étudient, mais parce qu'elles sont intéressantes géométriquement, et que les astrophysiciens étudient pour faire des mesures.
La raison pour laquelle je parlais de ça, c'était pour parler d'applications concrètes à l'idée de ces géométries multiples. Et je voulais en arriver à l'idée que, étant donné qu'il existe des géométries multiples, il y a un certain temps, Descartes et d'autres prenaient une géométrie pour essayer de faire des découvertes et de faire des recherches. Vous, dans une certaine approche de la géométrie aujourd'hui, Nalini Anantharaman, vous utilisez même des statistiques pour essayer de faire des découvertes géométriques. Est-ce que, en utilisant des géométries un petit peu aléatoires, est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que ça signifie?
Oui, c'est un sujet auquel je m'intéresse depuis 7 ou 8 ans. L'idée de géométrie aléatoire, c'est qu'on va s'intéresser à des objets qui sont construits un peu au hasard. On a entendu tout à l'heure une publicité pour une marque de meubles suédois. On pourrait imaginer que notre meuble, au lieu de le construire en suivant le mode d'emploi, on se dise, voilà, ce mode d'emploi m'ennuie, je vais juste essayer d'assembler les pièces au hasard et puis je vais voir ce que j'obtiens.
Bon, ça ne marche pas.
Ça ne marche pas souvent. Mais par contre, en mathématiques, ça donne souvent des choses très intéressantes et il y a plein de raisons en fait pour lesquelles on peut avoir envie de faire ça. Il y a peut-être une des raisons, c'est que naturellement, on est plutôt porté à apprécier les objets très symétriques en mathématiques. C'est peut-être aussi le cas en design d'ailleurs. Si on parle des triangles, par exemple, on sait tous qu'il y a plein de sortes de triangles différentes, mais on a tous dans l'idée que le triangle équilatéral, il est mieux que tous les autres.
Et c'est celui qui a les mêmes
côtés. Voilà, il a les trois côtés de même longueur, il a les trois angles égaux. Et donc, naturellement, on est porté à s'intéresser toujours plus aux objets symétriques, et le fait de construire des objets au hasard, c'est une manière de s'intéresser à d'autres objets, à découvrir des objets vers lesquels on n'est pas forcément attiré au départ. C'est aussi une idée d'imaginer que les objets géométriques ils forment un peu comme une population et qu'on veut faire des statistiques sur cette population. Hein, par exemple, la population française, voilà, combien de gens en moyenne, combien de fois les gens changent de brosse à dents par année. Ben, si je regarde la population de tous les triangles, je peux avoir envie de savoir... un triangle lambda, qui n'est pas le triangle équilatéral, bah, qu'est-ce qu'il peut avoir comme propriété géométrique? Et moi, j'ai beaucoup regardé ça sur la population des surfaces hyperboliques. Et en particulier, ça faisait suite aux travaux de Mariam Mirzakhani, hein, qui est une des premières, donc une mathématicienne d'à peu près mon âge, qui est la première femme à avoir eu la médaille Fields et qui avait beaucoup travaillé sur les surfaces hyperboliques aléatoires. J'ai eu envie d'étudier la population de toutes les surfaces hyperboliques pour savoir un peu en moyenne comment elles se comportent.
Et oui, on va juste citer à nouveau Mariam Mirzakhani qui nous a quittés en 2017 et qui est effectivement la première femme à avoir eu cette médaille Fields, le prix Nobel des mathématiques, et qui était née à Téhéran en 1977. Je vous propose, avant d'écouter les questions du public, d'écouter Angel et Justice avec What You Want. Nous sommes toujours avec mes trois invités, la mathématicienne Nalini Anantharaman, le mathématicien Etienne Gis, la designereuse Mathalie Crasset et bien sûr le public du studio 180, la maison de la radio, qui se prépare à poser ses questions.
Christophe Galfard, Big Bang.
C'est le temps des questions et nous avons une première question d'Antoine.
Oui, bonjour. Est-ce que l'intelligence artificielle est capable de faire des découvertes? Et autrement dit, est-ce que c'est un outil utilisé par les mathématiciens?
Et en particulier les géomètres, Étienne Gis.
Bon, alors c'est deux questions en fait. Est-ce qu'il peut être utilisé et est-ce qu'il peut faire des découvertes? Ce sont des questions très différentes. Moi, je vais faire un petit coup de gueule quand même, parce que on entend un peu partout que l'intelligence artificielle va remplacer les mathématiciens. Et on entend que c'est la preuve, c'est que aux dernières Olympiades internationales des mathématiques, une intelligence artificielle a gagné la médaille d'or ou la médaille d'argent, je ne sais pas, ce qui est vrai. C'est une confusion gigantesque de confondre un mathématicien avec quelqu'un qui résout des exercices. Hein ? Alors, il est clair que l'intelligence artificielle peut nous aider, peut-être, dans certains cas, à résoudre des questions, des exercices, pour simplifier. Mais la question qui était posée, c'est est-ce qu'on peut avoir de nouvelles idées pour faire un nouveau parcours et créer de nouvelles choses qui, et ça, c'est pour l'instant, on n'y est pas encore. Hein. Alors maintenant, est-ce que les mathématiciens peuvent l'utiliser? Oui, moi j'utilise couramment, comme un collègue qui a lu beaucoup d'articles, beaucoup plus que moi, et qui peut me conseiller. Par exemple, je lis un article, il y a un truc que je ne comprends pas bien, je demande à l'intelligence artificielle, est-ce qu'il n'y aurait pas un livre que je pourrais lire sur la question? Et on envoie une douzaine, et je choisis celui qui m'intéresse.
Mathilde,
donc ça, c'est magnifique.
Vous vouliez rebondir?
Oui, je veux dire, ce qui est intéressant, c'est de dire, de partir d'hypothèses ou de concepts. Je pense que de ce fait, on travaille peut-être un peu de la même façon. Et ces concepts, c'est aussi l'idée de remettre un peu en cause notre système de pensée. Aujourd'hui, il y a aussi beaucoup d'enjeux qui demandent à penser différemment et d'essayer de créer des espaces-temps peut-être spécifiques qui nous font réfléchir différemment. Je voudrais juste citer un exemple, par exemple, comme le suggère David Abraham, on considère que le futur est devant nous et le passé est derrière nous, c'est une espèce d'élément qu'on a tous intégré, et en fait, lui, il propose plutôt que de proposer que le passeré il serait justement en dessous de nous, dans le sol. Mais il serait composé en fait de toutes les archives en fait du vivant et les corps aussi, les branches, etc. Ce qui nous permettrait de penser différemment et surtout d'essayer de réfléchir à cette notion de finitude en fait qui nous pose problème énormément aujourd'hui.
J'aime bien cette notion de distance par rapport au passé et au futur et où on la présente, parce que je me suis moi-même fait la réflexion que le passé on le connaît quelque part un peu en tout cas, donc on pourrait le voir, du coup il serait logique de le mettre devant nous vu qu'on voit ce qui est devant nous, et le futur on le mettrait derrière vu qu'il est invisible. Donc il y a vraiment plein de manières de voir ces choses-là sur lesquelles on peut mettre des distances, ce qui nous ramène à la géométrie. Nous avons une deuxième question de Léane.
En géométrie sphérique, est-ce qu'on ajoute ou retire certains des quatre axiomes fondamentaux et comment est-ce que vous l'interpréteriez?
En gros, la question, c'est il y a cinq axiomes dans la géométrie d'Euclide. Le cinquième, c'est les parallèles. Si on l'enlève, on a la géométrie hyperbolique et la géométrie sphérique. Mais les quatre autres, qu'en est-il? Nalini Anantharaman, est-ce que vous voulez répondre à ça?
En géométrie sphérique, doivent toujours être valables. Mais par contre, si vraiment on accepte maintenant le mot géométrie en un sens beaucoup plus large, par exemple si on parle de géométrie des objets fractales, là, les autres axiomes, certains ne sont pas vérifiés. On n'en peut même plus parler de segments qui joignent deux points. Enfin, donc voilà, si on étend complètement la signification du mot géométrie, il y a des géométries qui ne satisfont pas les...
Là, ce grand mathématicien qui s'appelait Hilbert, pas pour rire, mais pour faire réfléchir un peu sur ce qu'est la géométrie, il a dit, bon, si on changeait les mots, si au lieu de dire point et droite, on disait verre de bière et table, alors on pourrait dire qu'entre deux verres de bière, il passe une table. Et il dit, le sens des phrases aurait complètement changé, mais formellement, les vérités resteraient les mêmes. Et donc, c'est précisément ce qu'on a dit tout à l'heure, on sort de l'interprétation concrète de la géométrie, et on s'autorise des choses totalement abstraites, où on joue avec des mots. Et beaucoup de mathématiciens au XXe siècle ont joué avec ça, dont ton prédécesseur au Collège de France, Jacques Titz, qui a passé sa carrière à inventer des géométries avec des mots qui n'avait plus le sens qu'on donne en français. Au début, il parlait d'ossuaire, c'est absolument incroyable. Donc on peut jouer avec des mots, avec des relations entre les objets, et on est très très loin des distances.
C'est évidemment le prédécesseur de Nalini Anantharaman, et non pas le mien, au Collège de France.
Ce dont on n'a pas non plus parlé, on n'aura pas le temps, mais c'est tous les espaces qui sont de dimension infinie.
Bien sûr.
Sur lesquels souvent il y a plusieurs distances. Et on peut avoir envie de travailler avec plusieurs notions de distance sur le même espace, et selon la distance qu'on regarde, on voit des choses complètement différentes. Le même espace peut satisfaire un axiome ou pas, selon la distance qu'on regarde.
Pour rebondir du coup sur la question qu'on vient d'entendre de Léane, c'est qu'en gros, le nombre de géométries qu'on peut créer, comme certaines d'entre elles, est quasi infini. Et à chaque fois qu'on change un petit peu les données de base, les axiomes de base pour construire une géométrie, on a des découvertes qui sont fabuleuses.
David, il n'est pas quasi infini, il est infini.
Il est infini, pardon, j'ai dit quasi. Mais les mots ne veulent plus rien dire, voilà. Comme vous disiez tout à l'heure. Juste pour rebondir, une dernière fois avant que je vous fasse écouter le petit son mystère. Vous parliez de David Hilbert, c'est pas un hasard, Étienne Gis, parce que après des siècles et des siècles passés à essayer de comprendre ce que voulait dire Euclide, les mathématiciens se sont dit que c'était pas si clair que ça, ces axiomes de départ. Et en 1899, si je me trompe pas, Hilbert a publié
Les Grundlagen der Geometrie.
Voilà, en allemand. Et en français, ça donne quoi?
Les fondements de la géométrie.
Les fondements de la géométrie dans lesquels il a remplacé les anciens axiomes d'Euclide par 21 nouveaux axiomes. Ouais. Qui permettent d'être un petit peu plus précis pour créer une géométrie cohérente. Il est temps d'écouter un petit son, je ne vous en dis pas plus, on écoute et vous allez me dire ce que ça vous inspire.
Je crois savoir.
Je vois Tchadjis qui dit je sais.
Je crois savoir si cette musique qui fait semblant de grimper tout le temps et qui ne grimpe pas en fait.
Non.
Non, c'est pas ces escaliers de Cantor, là ?
C'est pas les escaliers de Cantor.
En musique ?
Non.
Ah bon ?
Il y a une continuité, là. Ça rentre plus dans le domaine de Nalini, de géométrie, un petit peu,
et
d'acoustique.
Pour moi, c'est le son qui est associé à l'expérience de Chladni.
Absolument.
Ouais. Ah, d'accord.
Vous avez
Bravo.
Tout à fait trouvé.
Non, mais c'était de la triche, mais c'était un sujet qui
est... Élodie Royer, qui a préparé cette émission, était sûre que vous trouveriez. Elle avait absolument raison. Nous allons écouter Mourad Oudiche, qui est enseignant-chercheur à l'Université de Lorraine, à l'Institut Jean Lamour à Nancy, et dont les recherches portent sur les métamatériaux acoustiques, des matériaux artificiels capables de contrôler et de manipuler les ondes sonores. Il va nous expliquer de quoi il s'agit.
Bonjour à toutes et à tous. Le son mystère que vous entendez vient d'une simple plaque métallique que l'on fait vibrer. Quand on change légèrement la fréquence, c'est-à-dire le nombre de vibrations par seconde, la plaque ne vibre pas n'importe comment. Les vibrations s'organisent selon des formes géométriques très précises. Si l'on dépose un peu de sable ou du sel fin par exemple, quelque chose d'étonnant se produit. Les grains se déplacent tout seul et dessine des motifs géométriques réguliers, parfois très complexes. En réalité, le sable s'accumule exactement sur les lignes de la plaque qui reste immobile et donc qui ne vibre pas. Ces lignes forment des figures spectaculaires appelées figures de Chladni du nom du physicien qui les a découvertes au XVIIIe siècle. Ce qui est fascinant, c'est qu'on peut ainsi visualiser directement la géométrie cachée des vibrations. Autrement dit, le son, et donc la musique, par exemple, peut littéralement dessiner des formes dans l'espace. Et derrière ces motifs se cachent les mathématiques des vibrations, donc la forme de l'objet, sa taille, sa symétrie déterminent les figures que l'on observe. Ceci est une belle illustration du lien profond entre le son, la physique et la géométrie. Alors d'une certaine manière, on peut dire que cette expérience peut nous permettre presque de voir le son. Voilà, j'espère que cela a été assez clair. Et je vous remercie.
Et je suis très content que vous ayez trouvé Nalini Anantharaman, car il s'agit bel et bien de votre spécialisation. Et oui, l'heure tourne, mais nous sommes encore le 3-14, et c'était Big Bang. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés jusqu'ici. Merci à Mourad Oudiche de nous avoir fait entendre des formes géométriques. Merci à Mathalie Crasset. Votre exposition Égards obliques est en ce moment au Musée des Beaux-Arts de la Chaux-de-Fonds jusqu'au 8 août. Et votre livre Autrement est publié aux éditions de La Martinière. Lumière. Merci à Étienne Gis, votre nouveau livre, La petite histoire des lettres dont vous nous parliez en introduction, est publié aux éditions Odile Jacob. Merci à Nalini Anantharaman. Le 1er avril prochain, vous donnerez une conférence dans le cycle Un texte, une aventure mathématique de la BNF, la Bibliothèque nationale à Paris, autour de la méthode de Descartes pour résoudre les problèmes géométriques. Et merci au public du studio 181 de la Maison de la Radio. Cette émission a été réalisée par Benjamin Riquet, à la programmation musicale Jean-Baptiste Audibert, à la technique Tilaï Ravu, à la vidéo Guillaume Ficheux et à la préparation et à la programmation Élodie Royer. Je vous donne rendez-vous samedi prochain pour une émission sanglante, car oui, il y aura un nouveau combat en ce premier jour de printemps, un combat entre guêpes et araignées. Toutes les émissions Big Bang sont à retrouver en podcast sur l'application Radio France et toutes les plateformes de streaming.